Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Marquinhos qui baisse le trophée et qui va pouvoir le brandir dans le ciel de Budapest. Le PSG conserve son trophée. Le PSG, après avoir écrit l'histoire, entre dans la légende du foot.
Georges Quirino.
Un matin avec une deuxième étoile pour tous les supporters parisiens. Vous êtes champion d'Europe pour la deuxième année consécutive. Vous êtes rentré dans l'histoire du foot français, du sport français, avec ce succès au bout du suspense au tir au but face à Arsenal hier à Budapest. Vous l'avez vécu sur RMC. Un immense dimanche de sport nous attend encore avec les célébrations parisiennes, avec la qualification de Wemby en finale NBA à 22 ans au terme d'un match 7 époustouflant à Oklahoma, la suite de Roland-Garros, la fin du Giro d'Italia. Voilà le programme magnifique des grandes gueules du sport. Bonjour Christophe Cessieux.
Bonjour Georges Quirino, comment ça va?
Bah écoute, très bien. C'est bien, on est des fans de sport, hein, comme vous les auditeurs et les auditrices. On vibre pour ça.
C'est magnifique, un super samedi de sport, avec cette finale évidemment, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout du suspense. Comme disait notre confrère tout à l'heure, malheureusement, on a dû... tricher et slalomer entre le tennis et le foot. Je trouve ça franchement scandaleux qu'on programme deux événements comme ça en même temps et oblige les téléspectateurs et les auditeurs à slalomer entre les deux.
Il aurait fallu annuler Roland Garros jour sans.
Non, il aurait fallu faire pour les fans français faire autre chose.
Le problème, c'est que même en Night Session, en fait, ça aurait été ric-rac, hein, comme ça s'est fini cette finale. Bonjour, tiens, comme dirait Jean-Christophe Drouet, Pascal Duprat, ça va Pascal?
Mais ça va très bien, mon cher Georges.
Alors, Pascal, il faut le dire à nos auditeurs, qui a vécu la finale avec Vincent Moscato et Denis Charvet. Est-ce qu'on apprécie
magnifique.
Vraiment la finale?
La finale était magnifique.
Ouais, c'est vrai?
Oui.
Et la compagnie de Vincent.
C'est surtout
la
troisième mi-temps, comment était-elle, Pascal?
Ce sont des spécialistes de football. Ouais. Attention, messieurs.
C'est spécialiste de troisième mi-temps.
Ils étaient pertinent dans leurs remarques tout au long de la soirée.
De plus en plus, non.
Un maniement de l'ironie qui est toujours extraordinaire. On ne sait jamais si c'est de l'ironie ou pas, Pascal.
Aucune ironie, j'ai pas envie de me faire tarter.
Salut Cédric Emmons. Ça va Cédric?
Très bien.
Tout habitué, les back-to-back et tout, t'en as vécu en ta carrière.
Ouais, plein. Ouais. Ça. Non, très bien. J'ai écouté RMC, moi, donc j'étais au courant. Roland-Garros, le foot, Roland-Garros. J'ai pu vivre ça pleinement. Ouais.
D'ailleurs, on te félicite, Cédric, on a pas eu l'occasion. Ouais. Tu as gagné le Crunch Creator la semaine dernière, le France-Angleterre avec les créateurs de contenu, les anciens joueurs à Bordeaux, c'était incroyable.
En ce moment, tout va très bien parce que je leur fais une petite dédicace. Les U12 que j'entraîne, on a gagné le tournoi hier.
Oh là là.
À côté de Limoges, à Lille. Donc, ça va en ce moment.
Je vous préviens, c'est le futur Luis Enrique du rugby. Hein. Il est avec nous, Cédric.
Écoute, j'ai l'histoire à commencer. J'apprends d'abord, je me fais former, j'apprends après, on verra.
Est-ce que Fred Weiss a dormi une seule minute cette nuit? Salut Fred.
Bonjour, j'ai beau être matinal.
Mais j'ai mal. J'ai la référence. Alors, heureux?
Bien sûr, heureux. Très grand match. La capacité de s'imposer, oui, bien sûr, heureux, évidemment.
Je parle du PSG.
PSG, évidemment, heureux aussi, bien sûr. On est content pour tout le monde.
Non, mais franchement, le sport français est quand même à un niveau extraordinaire. On se croirait dans les années 80, 90. Je me rappelle pas, j'étais pas né. Si je suis en 88, ça va. Bon,
je suis pas tout vécu.
Je suis le plus jeune autour de la table, là, jusqu'à midi au programme des grandes gueules du sport. On va largement revenir sur le deuxième titre consécutif du PSG. Tire à 10h sur le ring. Luis Enrique est-il déjà l'entraîneur de la décennie? Vous votez sur le compte X des grandes gueules du sport. 10h30, Victor Wembanyama en finale NBA. RMC était au plus près de Wemby cette nuit à OKC. Fred, tu vas nous parler de ton émotion de voir Victor qualifié en finale face au Onyx. Et on va se demander si c'est pas un des plus grands exploits du sport français, hein, ce qu'ils ont réussi cette nuit face aux champions en titre sur leur parquet. On parlera de Roland-Garros sur le buzzer. Diane Paris, notre dernière représentante, est-ce qu'elle va sauver le Roland-Garros des Français? Le j'y crois pas, avec Vingegaard qui va remporter le Giro aujourd'hui à Rome après une cinquième victoire d'étape hier. Est-ce que le Danois relance le suspense sur le prochain tour dans un mois? Le zapping avec le top 14 l'avant-dernière journée, il s'est passé plein de choses. Et puis en fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Ce week-end, remportez votre enceinte portable Tamo de Lexon, une mini enceinte Bluetooth, Fred, que tu peux connecter à l'infini. Voilà, si tu veux te connecter avec 1 million de dispositifs, Tu peux.
Mais j'en ai un million, je vais
c'est vrai
quand même.
Ouais, ah, c'est incroyable, j'imagine tout à fait ça chez toi. Pour emporter votre enceinte portable Lexon, appelez le 3216, touche 4, envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Mais d'abord, hier soir, donc à la Puskás Arena de Budapest, le PSG a brodé sa deuxième étoile. Vous l'avez vécu sur un RMC.
Parce qu'il y a qui n'est pas en profondeur, qui est dos au jeu, qui va trouver des mêlées en surface, oui, le 1-2 avec Valenti.
Penalty. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, a au bout du pied l'égalisation du PSG dans cette finale de la Ligue des Champions. Il est face à Raya. Ousmane Dembélé a pris sa course d'élan. Il a posé son ballon. Raya est sur la ligne. Monsieur Cyber a sifflé. Dembélé qui frappe. Oui, c'est au fond. Le contre-pied est impeccable de la part de Désiré Doué. Et oui, c'est un contre-pied parfait en finale de Ligue des Champions. Raya est parti sur sa gauche. Dembélé l'a mis de l'autre côté. Et Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, permet au PSG de revenir à un partout.
Et c'est Paris. Paris, ma ville, elle est magique.
Eze qui s'arrête dans sa course, qui frappe.
Oui, 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 il l'a raté, il l'a raté.
Trois pas seulement pour Nuno Mendes face à Raya.
C'est parti. Oh, l'arrêt de Raya. L'arrêt de Raya. L'arrêt de Raya. On remet les compteurs à zéro.
Allez, Safonov, c'est la balle de Ligue des Champions. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Ou si Gabriel tire à côté, c'est gagné. La course d'élan, c'est parti pour Gabriel.
Oh, c'est gagné. Oh, Paris remporte la Ligue des Champions. Consécutive, le PSG l'a fait, le PSG a gagné la Ligue des Champions et le PSG a réussi son back-to-back.
Paris entre dans la légende du football mondial.
Marquinhos peut brandir dans le ciel de Budapest la Ligue des Champions pendant encore un an. Elle est propriété exclusive du PSG.
Cette hymne appartient au Paris Saint-Germain pour la deuxième année consécutive. Vous l'avez vécu sur RMC, Jean-Louis Tour, Valentin Jamin et Jérôme Bretagne, où l'on fait vivre en direct sur RMC. Paris a chaviré une deuxième année consécutive en voyant Marquinhos à nouveau soulever la coupe aux grandes oreilles. Cette fois-ci, scénario complètement différent. Rien à voir avec le 5-0 de l'année dernière face à l'Inter. Il a fallu souffrir jusqu'au tir au but, un partout, pour aller chercher cette nouvelle étoile. Les GG, je vous pose la question ce matin. Très simple. Est-ce que cette finale et le scénario, est-ce que c'est encore plus beau que l'année dernière? Pascal Duprat.
Oui.
Cédric Emmons.
Oui.
Christophe Cessieux.
Non.
Fred Weiss.
Non.
Supporter parisien, racontez-nous votre émotion, votre nuit au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. On va le retrouver en Hongrie. Jean-Louis Tour, notre voix du foot, nous a fait vivre cette finale sur RMC. Salut Jean-Louis.
Salut Georges, salut les grandes gueules du sport.
Salut Jean-Louis.
Bah oui, ça va, bien sûr. Le lendemain de victoire en Ligue des Champions, c'est pas rien.
Petite voix quand même, hein. Un peu enroué.
Bah, petite voix, on s'est donné, qu'est-ce que tu veux.
Bon, Jean-Louis, tu étais à Munich l'an passé, là, t'as vécu le sacre de Budapest. Ce succès a été gagné dans la souffrance cette fois-ci. Bah, raconte-nous un peu les scènes que tu as vues au stade hier.
Bah écoute, les scènes elles se bousculent dans ma tête ce matin parce que forcément il y a des choses qui reviennent. L'image déjà du penalty de Gabriel, je pense, qui part au-dessus du but de Safonov, ça va rester gravé dans les mémoires de supporters parisiens pour longtemps. D'ailleurs, moi je retiens aussi l'image de Marquinhos qui vient prendre dans les bras Gabriel, c'est-à-dire qu'il reporte sa célébration de deuxième titre pour aller réconforter son partenaire de sélection brésilienne. J'ai trouvé ça magnifique. Et pour le reste, bah c'est surtout une énorme attente qu'on retient. Parce que elle était beaucoup plus dure que la saison dernière, un scénario diamétralement opposé, là où les bus sont enchaînés à Munich avec la victoire 5-0 contre l'Inter, là il a fallu attendre, il a fallu même compter les occasions franches pour le PSG, ça a mis du temps à se décanter, on voyait pas bien comment le PSG allait réussir à égaliser jusqu'à ce pénalty obtenu par le duo Dembélé-Kvaratskhelia et la délivrance donc, j'en parlais de ce dernier tir au but de Gabriel. Alors forcément c'est difficile de comparer les émotions dans ces cas-là, les supporters du PSG vont d'ailleurs devoir désormais s'habituer à ça. On n'est pas habitué dans le foot français à comparer des émotions de victoire en Ligue des Champions. Donc va falloir commencer à le faire. Mais celle d'hier, elle a toujours une saveur particulière. Même si Marquinhos, hier en interview, avait un petit faible quand même pour la première.
C'est une saveur différente, je vais être sincère. La première, elle était très émouvante. La deuxième,
elle est encore très très belle et encore plus difficile que la première, mais c'est une saveur différente. Et pour moi, la première, elle était très spéciale parce que voilà, on a souffert pendant des années. Quand tu gagnes, quand tu arrives, déjà avant le match, j'ai pleuré sur le terrain. Aujourd'hui, c'était un match différent. On savait pas si on allait gagner jusqu'au penalty, jusqu'à la fin. Voilà, la saveur de gagner ça, on va célébrer, on se rend pas compte encore. Et ça reste dans la légende, dans l'histoire. Et je crois qu'il quelques années, on va voir ce qu'on a fait. C'était vraiment très beau.
Bon, ils ont dormi les joueurs, Jean-Louis, ou pas trop?
Écoute, je pense pas trop, mais sans faire de folie non plus, parce que ils sont restés à l'hôtel où ils séjournaient à Budapest. Il y a une salle qui leur était réservée, donc il y avait quand même du monde, hein, avec les familles, avec les proches, etc. Mais pas de folie non plus jusqu'au bout de la nuit. Donc la suite de la fête, bah, ce sera aujourd'hui bien sûr. Là, à mon avis, à l'heure où on se parle, ils sont en train de se réveiller tranquillement. Ils vont prendre l'avion à la mi-journée pour rentrer à Paris. Et là, c'est le top départ des bains de foule. Le premier, ce sera sur le Champ de Mars, où on attend près de 100 000 personnes au maximum pour donc apercevoir les champions. Ensuite, ils seront reçus à l'Élysée par le chef de l'État. Et ensuite, sur le modèle de l'année dernière, le Parc des Princes va être ouvert à partir de 19h30, l'ouverture des portes, pour une grande soirée de célébration où chaque joueur va être acclamé, où le trophée va être présenté au public du parc.
Bon, tu te reposes dans l'avion de retour de Budapest, parce qu'on a besoin de toi tout à l'heure, hein, donc à 20h oui, au Parc des Princes pour fêter tout ça sur RMC. Merci Jean-Louis, à tout à l'heure.
Avec plaisir, à tout à l'heure.
Tiens, j'ai un message de Benjamin sur WhatsApp au 06 12 424 424 qui me dit: je suis de retour dans un Genève-Budapest, j'ai complètement perdu ma voix, exceptionnelle, une émotion complètement différente de l'année passée. C'était invivable cette finale, irrespirable. Bah, appelez-nous au 32-16, hein, évidemment, pour participer et nous raconter comment vous avez vécu cette finale. Était-elle encore plus belle que celle de l'année dernière, Pascal? Tu dis oui.
Oui, 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 parce que même si sportivement et techniquement, si on analyse le match hier, bien sûr, c'était moins fluide que la première finale, mais il a fallu batailler, et les Parisiens ont été admirables contre cette équipe d'Arsenal qui prenait jamais de but ou peu de buts en Ligue des Champions.
6 buts encaissés, ouais.
Voilà, 6 sur l'ensemble de la compétition. À ce titre-là, ils ont pas perdu un match dans le temps réglementaire.
T'as raison, ils finissent invaincus, Arsenal, cette Ligue des Champions.
C'est quand même impressionnant, il faut rendre cet hommage là, parce qu'il y avait de l'intensité, de l'émotion, parce que les Parisiens, eh bien, ils étaient, pour ma part, je les ai sentis moins bons, moins déliés, moins faciles que d'habitude, et donc ça nous laissait craindre que l'issue pourrait être défavorable. Tout ceci mélangé me fait dire que, en plus, c'est la deuxième, c'est hégémonique maintenant. Le Paris Saint-Germain vient de gagner consécutivement 2 Ligues des Champions. On a quelques questions que tu poseras tout à l'heure, mais franchement, c'est exceptionnel. Rappelons-nous, pardon, je termine sur ce constat. En septembre, on disait du Paris Saint-Germain qu'il n'avait pas récupéré parce que pas de préparation estivale, pas de coupure, des blessés, que sais-je encore. Et le Paris Saint-Germain a confirmé son titre. Chapeau.
Pour la difficulté, pour le sens de l'histoire, Pascal, pour toi, Christophe, toi, tu dis que c'était pas forcément mieux que l'année dernière?
Non, non, mais c'est sûr que c'est l'archétype de la finale tendue jusqu'au bout, avec des renversements de situation, le sentiment que tu vas pas y arriver, tu te heurtes à un mur. C'est un coffre-fort, la défense d'Arsenal, surtout quand il marque un but d'entrée. Et derrière, derrière, c'est une équipe italienne des années 80, il y a plus rien qui passe. Et tu voyais le PSG qui, il y avait une zone interdite, c'était la surface de réparation, il tournait tout autour, le ballon circulait, t'arrivais jamais à rentrer dans le truc. C'était hyper frustrant en termes de jeu. Franchement, on disait il y a quelques semaines, après la demi-finale aller, est-ce que le football doit aller dans ce genre de match entre le Bayern et le PSG? On était tous enthousiastes après sans doute l'un des plus beaux spectacles de football, et là on se rend compte que quand c'est du sérieux, quand il y a un enjeu au bout et qui est encore plus important, le football se referme comme
oui, mais si on peut bien analyser, voilà, en termes de duel, d'intensité,
oui.
C'est chouette à voir.
Moi je suis un footix, moi je préfère je préfère le Bayern PSG avec des buts de tous les côtés. Je préfère la finale de l'année dernière.
Mais complètement.
Non. Moi je le revendique. Autant dans d'autres sports, je maîtrise plus, mais le football, pour moi doit me donner des émotions, doit me régaler. Et hier je me suis emmerdé à tel point que j'ai regardé le tennis pendant la grande partie de deuxième
temps. J'ai eu le même problème. J'ai exactement eu le même problème. C'est que déjà, c'est normal que la première soit mieux, parce que la première est toujours mieux.
Ouais.
En fait, c'est logique, parce que tu découvres quelque chose, parce que tu vas gagner ton premier.
Toutes les premières
parce
sont
que toutes les premières sont mieux, mais évidemment qu'on se rappelle chaque fois que dans le sport, on avance, ben, on a déjà franchi cette étape. Donc, à partir de là, la deuxième est de toute façon moins bien. Et ensuite, effectivement, moi,
je suis pas d'accord avec toi.
Tu sais très bien que gagner, en fait, c'est, on appelle ça en basket percer le filet. Donc, à partir du moment où le filet est percé, ben, tu sais le chemin, tu connais le chemin.
Quand tu gagnes dans la difficulté, est-ce que c'est pas encore plus beau?
Oui, mais c'est pour ça qu'elle est plus belle. Oui, mais pas pour moi. Pourquoi? Parce que moi, j'aime voir du beau jeu. Je rejoins Christophe, j'ai envie de
voir. Non, mais là, c'est stratégique, Fred.
Ils ont fait péter un verrou. Tu prends un but en face. Si vous voulez courir autour de la pelouse, vous me le dites. Moi, j'ai envie de voir des buts. J'ai envie de voir des gens qui tirent au but.
Mais le PSG l'a fait. Ils ont mis X tirs. Ils ont essayé. Ouais. Ce qui est beau, c'est
Arsenal, un seul.
Oui, mais c'est la stratégie. Tu prends un but au bout de la sixième. Tu sais qu'ils vont faire que défendre. Ils ont mis un bloc bas. Tu savais que le PSG, et je suis d'accord, c'était du hand. Au bout d'un moment, de droite à gauche, de droite à gauche, ils n'arrivaient pas à faire sauter le verrou. Mais quelle force mentale de ne pas renoncer. C'était un vrai.
Mais force mentale, ça ne veut pas dire beau.
Non, mais.
La question, cette finale était-elle encore plus belle que celle de
l'année dernière? Oui, parce que stratégiquement et mentalement, ils sont allés la chercher, ils ont puisé.
On n'a pas les mêmes notions de beauté.
Vous parlez beau dans le jeu, mais ça peut être beau dans la stratégie, dans l'effort mental, dans le combat.
Il n'y a pas une définition de la beauté.
Exactement. Et moi, je trouve que le PSG a su faire preuve de force mentale, de stratégie. Luis Enrique a fait rentrer tardivement ses joueurs pour. Il savait que ça allait arriver aux prolongations. Moi, je pense que stratégiquement, c'est beau ce qu'il a fait et ce que le PSG a fait, c'est beau.
Cédric, t'en as joué des finales comme ça, très 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 serrées.
Ouais, il y a face au Stade Français, on part en prolongation et
Toulouse gagnait beaucoup plus beau que.
Il y a eu quelques finales. Il y a eu un titre de champion de France face à Montpellier qui est pas beau, hein.
Mais bon, quand tu gagnes, ça arrive. Non mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es sur le terrain, quand tu gagnes un match difficile dans la souffrance, le joueur il le vit différemment.
Mais bien sûr qu'il le vit. L'année dernière, la 60e ou 65e.
Ta plus belle victoire, c'est quoi, toi? C'est des victoires difficiles?
Non, c'est la première. Il y a la première, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La première, elle est toujours marquée. Mais celle où on va chercher.
Il est facile à convaincre,
franchement. Non. Là, par contre, la plus belle, c'est quand je quitte le stade face à Montpellier.
Oui, mais pour le joueur, pas pour le spectateur. En fait, là, tu te mets dans la position du joueur. Pour le joueur, dans la position du joueur, je suis d'accord. C'est certainement pour eux, peut-être plus beau parce que c'est plus dur, parce qu'il y a une dramaturgie, parce que ça joue au tir au but. Que là, moi, je suis en train de parler du spectateur. Est-ce que tu prends autant de plaisir à voir un bloc bas où il y a un seul tir cadré par Arsenal et il ne se passe pas grand-chose?
Ça dépend où tu te positionnes.
Si
tu es supporter parisien, si tu es fanatique du Paris Saint-Germain, tu te dis que tu as vécu des émotions folles parce que tu as cru que tu allais la perdre et tu l'as gagnée. Évidemment, si tu es supporter marseillais,
tu marques l'histoire, tu rentres dans l'histoire. Il y a ça. Cette finale te permet de rentrer dans l'histoire.
Non, puis il y a aussi, pardon, si tu regardes le match hier, tu as aussi cette intensité où tu vois que à la 80e minute il y a des joueurs qui sont déjà perclus de crampes, donc ça veut dire qu'ils ont fait des efforts incroyables. Il y a une autre manière de lire le match de foot que celui du spectateur. L'émotion quand le dernier tireur d'Arsenal s'élance et qu'il te le fout au-dessus du but, franchement elle est incroyable, l'émotion, parce que tout d'un coup tu te remets à penser que le Paris Saint-Germain, dans un football français qui était longtemps en disette, eh bien vient de faire deux titres consécutifs de champion d'Europe.
Oui, mais faire deux consécutifs, il faut surtout commencer par un premier.
Moi j'ai une autre lecture de la victoire. Pour moi, la plus belle victoire, c'est la prochaine. C'est peut-être, tu vas me répondre parce que j'ai pas suffisamment gagné. Mais pour moi, la plus belle victoire, c'est la prochaine.
Allez, est-ce que cette finale est encore plus belle que l'année dernière? Cette victoire pour les Parisiens. On vous attend, supporters du PSG. On va vous accueillir dans quelques instants au 32-16. Grande journée de célébration attendue aujourd'hui à Paris. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Je suis content, nous, à la deuxième étoile. Là, on est le premier club français, là, on est rentré dans la légende maintenant.
Ça l'a fait, deuxième étoile, et on y a cru quand fallait y croire. La mentalité de Luis Enrique, jamais lassé, jamais baisser les bras.
Georges Quirino.
Paris l'a refait, encore une fois, champion d'Europe. La Ligue des Champions est à vous, supporters parisiens, pour une deuxième année consécutive. Est-ce que cette finale était encore plus belle que l'année dernière, gagnée au tir au but face
face à Arsenal. Tiens, les amis, écoutez Jean Neves, le Portugais qui a fait une finale monstrueuse. On parlait d'intensité hier après la rencontre.
C'était plus dur l'année dernière. Si on perd, on continue avec zéro Champions League. Et cette année, on doit défendre notre titre. C'est pour ça que je dis que c'était plus difficile, mais c'était moins excité. Je pense qu'on était déjà prêt pour la suite. Et on a fait un grand match. On était toujours tout le monde à 100%. C'est ça que notre coach veut. C'est pas 120, c'est pas 150. C'est 100%. Je pense qu'on a fait un grand match et on a mérité de remporter la Champions League.
Ouais. Il a dit d'ailleurs, on a mérité de gagner la Ligue des Champions parce que nous, on a joué au football.
C'est ça.
Le football a gagné, Pascal.
Oui, le football a gagné, oui. Parce que Arsenal, dès lors qu'ils ont marqué, eh bien, ils ont retrouvé leur vertu, à savoir se mettre dans les 25 mètres. Et puis mettre le bus.
Mais tu imagines les débats ce matin si Arsenal gagne, c'est-à-dire que c'est refus de jeu, c'est zéro promotion du foot. Bah,
écoutez, je peux vous le dire, à la mi-temps du match, j'avais noté un débat. La finale d'Arsenal est-elle indigne d'un champion si jamais il l'avait gagné. Tiens, donc, Sylvain sur WhatsApp me dit l'intensité du match hier était extraordinaire. Ouais. D'accord avec Pascal, pas forcément avec Fred et Christophe. Tiens, on va vous prendre au 32-16. JB, supporter parisien, nous appelle. Salut JB. Ouais,
salut. Bonjour à tous.
Bon, ça va ce matin, JB?
J'ai la pêche.
raconte-nous comment t'as vécu la finale d'abord. Avec qui, comment?
J'étais avec des amis. En plus, j'ai raté 10 minutes. J'ai raté le premier but. Hein. J'ai eu un petit peu de retard, mais je vous écoutais à la radio bien attentivement. On a passé une soirée incroyable, très stressante, parce que le match n'était pas beau, on le sait, on ne va pas revenir dessus. Moi, je vais revenir sur surtout un élément qui est très important et je crois qu'on n'a pas encore trop débattu dessus, c'est la façon de pourquoi Arsenal a perdu le match. Parce qu'on parle d'eux, il a refusé le jeu et tout. Moi, je vais vous dire, le vrai fait de jeu qui fait qu'Arsenal perd le match, c'est quand Arsenal a perdu l'arbitre. Arsenal, ils ont perdu l'avantage de la faveur de l'arbitrage au moment où ils ont commencé à perdre trop de temps. Vous voyez à la fin de la première mi-temps, Saka qui se fait refuser de tirer le corner. Et au début de la deuxième mi-temps, toutes les tentatives de simulation de petites fautes, parce qu'on savait que le projet de jeu d'Arsenal, c'était d'obtenir des coups francs pas trop loin du but pour pouvoir envoyer des ballons dans la surface. Et ben, vous allez refaites-vous le match, vous allez voir que plus une faute est sifflée pour Arsenal. Et très honnêtement, quand j'entends des mecs me dire ouais, Nasser, machin, l'arbitre, parce que ça a un petit peu jasé en disant que le PSG avait eu l'arbitrage favorable, et j'ai entendu, et j'étais plutôt d'accord maintenant, que comme le PSG fait partie maintenant des grandes équipes, ils sont un peu plus peut-être
arbitré comme une grande équipe.
Exactement. Mais c'était pas le cas hier. Je pense qu'Arsenal, ils se sont donné le bâton pour se le faire.
Ouais, alors tu penses peut-être effectivement. Alors je sais pas si on va pas partir effectivement dans un débat conspirationniste sur l'arbitrage ou pas. Mais je comprends ce que veut dire JB, parce qu'il y a l'accrochage de Nuno Mendes sur Madueke à la 102e minute. Certains supporters des Gunners disent qu'il aurait dû avoir penalty.
Le duel.
Il aurait dû avoir penalty.
Il y a pas penalty. La faute, c'est le joueur d'Arsenal qui prend le bras de Nuno Mendes.
On sait comment ça se passe. L'arbitre est forcément influencé. Une équipe qui joue, l'autre qui joue pas.
Exactement. Donc, Fred a raison. Il ralentissait, il jouait lentement, il truquait. Ils ont pris des jaunes pour des remises en jeu.
Mais bien sûr.
Pas rapide. Au bout d'un moment, dans la psychologie d'un arbitre, je suis persuadé, dans sa psychologie d'arbitrage, il est en train de favoriser, même inconsciemment, l'équipe qui joue, l'équipe
qui veut la mettre. Mais bien sûr,
JB dit, en fait, d'une certaine façon, si Arsenal avait fait une finale un peu plus clean, peut-être que le penalty à la fin du match,
il aurait considéré
Mais en tout cas, il y a des psychologies d'arbitrage pendant une rencontre, ce sont des êtres humains.
Des êtres humains, évidemment, ils suivent.
Mais on est d'accord pour dire qu'il n'y avait pas penalty.
Et vous avez vu qu'ils ne regardent jamais le ralenti, la faute, il attend que ce soit sa marque qui lui dise il y a pénalty ou il y a pas pénalty.
La double main, il y avait pas main effectivement, donc ça a été annoncé aussi par les arbitres encore ce matin sur cette situation. Je remercie JB de nous avoir appelé au 32-16. Il y a Bilal aussi qui nous appelle, supporter parisien. Salut Bilal.
Salut tout le monde.
Bon, c'est plus beau que l'année dernière, Bilal, ou pas?
Ouais, non, l'année dernière, on s'y attendait pas. L'année dernière, c'était vraiment une belle finale, première finale du PSG. En plus, sans Mbappé, franchement, je remercie le Real. Je remercie le Real d'avoir récupéré Mbappé, mais je vais remercier.
Mais kiffer, tu es dur. Faut pas penser aux ex, il faut kiffer ce matin.
Non, mais franchement, moi elle est encore plus savoureuse quand je sais qu'Mbappé regarde cette finale. Vraiment, c'est savoureux d'une manière.
Et quand tu vas marquer le but en finale de Coupe du Monde dans un mois, tu seras content ou non?
Ah ben là, tout le monde va rendre.
Mais ça, c'est un autre débat. pour moi, l'équipe de France ne va pas faire une bonne Coupe du Monde à cause d'Mbappé. Mais ça, c'est un autre débat.
Non, mais juste, dis-nous comment t'as vécu la finale.
Mbappé, c'est ça que tu dois nous dire.
T'as fait quoi? T'as souffert sur la finale? C'était insupportable.
Franchement, t'avais confiance. Franchement, c'était une belle finale. Moi, je savais qu'on allait gagner. Après, franchement, Arteta, franchement, il a fait un gros match avec Arsenal. Tactiquement, pour moi, c'était un gros match en première mi-temps. Arteta, pour moi, il a réussi son coup, c'est-à-dire marquer dès le début et mettre le but. Mais après, comme je disais, ça s'est joué au mental. Et le PSG, en fait, ils ont eu un mental de fou malade pour tenir, pour revenir au score. Et vraiment, moi, au début, j'ai eu peur parce que je voyais que Dembélé n'était pas dans son assiette. Et en fait, je me suis dit, mais Dembélé, qu'est-ce qu'il fait? Il restait pas à son poste.
Bilal, le passage au vestiaire fait du bien aussi. Le passage au vestiaire fait du bien aussi.
Exactement. J'ai l'impression que Luis Enrique a remotivé les troupes. Mais voilà, en deuxième mi-temps, les cinq premières minutes, c'était incroyable. Le PSG a remis le pied sur le ballon. Mais voilà, je pense qu'il faut pas bâcler le travail qu'Arteta a fait tactiquement. Et je pense que c'est un gros combat tactique et que Luis Enrique, au final,
a gagné. Arteta, il la tient, hein, parce que tu as raison. Il met but au bout de 6 minutes. Après, le bus devant le but d'Arsenal, stratégiquement, il est parfait pour lui. Et là où tu as raison, je pense que Luis Enrique a pas tout changé. Mais quand on les voit revenir en seconde période, il a remis un peu d'allant.
Mais il était chaud déjà. Il avait hâte que la mi-temps se passe, pour pouvoir communiquer avec ses joueurs.
Franchement,
c'était beau.
À la mi-temps, vous étiez inquiet pour les Parisiens, les amis? Ah oui, Pascal, non?
Non, d'ailleurs, je pensais qu'ils allaient gagner dans le temps réglementaire. Donc non, j'étais confiant.
Et pourquoi tu disais qu'ils peuvent pas refaire une même période?
Parce qu'en fait, quand la composition d'équipe a été dévoilée, eh bien, on se rend compte, c'est ça aussi qui est important et qui est important à souligner, c'est que les 10 joueurs de champ sont les mêmes que la dernière finale. C'est que le Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a aligné les 10 mêmes joueurs que la dernière finale en 2025. Donc cette continuité, elle te permet d'avoir des automatismes incroyables.
Dans la sérénité aussi.
La situation n'était pas la même, dans le jeu, dans le jeu qui pouvait développer, etc.
Là où le PSG a gagné, c'est aussi dans cette approche-là, avec une extrême continuité dans les saisons et dans le développement de l'équipe.
Moi, je tremblais de voir toutes ces occasions manquer.
En tout cas, une possession.
La possession, je me dis, mais ils n'ont jamais déplacé ce bloc, c'est pas possible.
C'est impossible.
Moi, c'était après l'égalisation, je me suis dit, ils vont leur en mettre deux dans la foulée.
Je pensais que Paris allait marcher.
Ils avaient trouvé la solution,
c'est de pas le football.
Il y a le poteau de Varache qui est bien, il y a la barre de Barcola à la 92e. Non, mais franchement, pareil, qui est le joueur de la finale pour vous? Tiens, on peut en sortir un, peut-être? Ou c'est l'équipe?
John Neves, moi, j'ai trouvé très, très bon au milieu, et moi l'ensemble de l'équipe, et même Marquinhos, j'ai trouvé souverain, quoi. Je m'attendais à ce qu'il marque Marquinhos, toi.
Marquinhos qui est allé prendre dans ses bras après le penalty raté par Gabriel, le Brésilien. Il est allé voir son coéquipier en Seleção. Au lieu de célébrer le titre, il est allé voir son coéquipier.
Rien que pour ça, c'est le joueur du match. C'est le joueur du match.
Ça, c'est une image qui fait le tour du monde, hein, je vous le dis. C'est aussi pour l'image du Paris Saint-Germain. Évidemment, ça joue. Qu'est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Non, moi j'ai bien aimé Kvara, comme d'habitude, dans son rôle. Bon, il a eu
en
moins
deuxième mi-temps, oui.
Il va quand même provoquer le péno. Et puis ce cheval fougueux, moi j'adore ce joueur.
Dès lors qu'il a un peu de profondeur devant lui, il est incroyable. En première mi-temps, il a raté parce qu'il était, parce que Arsenal était si bas qu'il était toujours arrêté, touchait le ballon.
Moi, ça sera Luis Enrique. Je suis émerveillé de la capacité qu'il a à changer cette équipe stratégiquement, à les modéliser à sa façon. Je suis admiratif de
l'entraîneur de la décennie, tu veux dire par là?
On va en parler tout à l'heure, à 10h. Effectivement, Fred, toi là.
Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la confiance et la sérénité qu'on a vu au tir au but. En fait, réellement, je connais rien en foot, tu l'as dit, tu as raison, mais peut-être autant que toi.
En fait,
tu
parles basket.
Merci Pascal, parce qu'on pourrait faire un débat là-dessus.
J'ai senti qu'il y avait une sérénité qui se dégageait, j'ai senti qu'ils étaient prêts. Et en fait, c'est ça qui m'a impressionné. plus moi dans ce match.
Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont gagné les six dernières séances
de tir au but. C'est vrai, effectivement. Il
faudrait peut-être les envoyer en équipe de France.
Non mais vous savez, moi ce qui me fascine toujours dans ces séances de tir au but, on en parlait un petit peu en antenne, c'est que chaque joueur il joue son destin.
Bah oui.
Il joue pas seulement pour l'équipe là, il joue aussi pour être
des gamins qui vont tirer
les buts. La pression sur les épaules. Non mais t'imagines. Des gamins,
hein. J'ai une passion pour les tirs au but, vraiment.
C'est vrai.
Pour moi, c'est la chose la plus belle du football.
Et moi, je trouve qu'il y a un courage incroyable de se présenter, de dire j'accepte, de représenter, de tirer. Honnêtement. Je pense que je le ferai pas.
Ah bah attends, c'est intéressant. Vous iriez, vous mettrez votre petit nom dans le papier là pour être dans les 5 tireurs là.
Ouais, ce serait un honneur.
Mais toi, parce que toi t'es un kiffeur, Pascal. Ah ouais, toi tu vis honneur. Le privilège d'être là dans l'instant où ça compte. Donc tirer. Premier tireur.
Le privilège de la pression.
Tu préfères être premier tireur ou dernier tireur?
Dernier, à la limite. Quand c'est la win, quoi. Décisif. Bah oui.
Fred.
Moi, je voudrais le faire parce que je suis pas rugbyman. Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir ce genre d'action sur des lancers francs, par exemple. Mais dans l'absolu, au milieu. Comme ça, je me cache un petit peu, quand même.
Moi, je l'ai fait chez les jeunes. 22 face au bar. J'ai trouvé la touche, quand même.
Ah ouais?
C'est vrai. Celle de Sofiane qui tourne dans le crush. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais pareil. Non, je me suis juré depuis y aller.
Donc, toi, quand t'as vu Gabriel.
Dans le jeu courant, pas de problème. Bah, alors là.
Quand t'as vu le joueur d'Arsenal l'envoyer dans le ciel,
j'ai dit, ça y est, j'ai retrouvé un rugbyman.
Moi non, parce que j'ai pas assez de mental. Si la barre renvoie mon ballon, je vais à une tronçonneuse et je tronçonne la barre. Non, moi c'est pas pour moi.
Moi je t'aurais bien vu là à côté de Luis Enrique, genre tu te caches, c'était le regard fuyant.
Tu vas tirer.
On va pas se mentir, on savait que t'avais pas de mental, hein, parce que la question impossible, tu la prends jamais. Hein.
Ah, mais il a pris hier, dans la gueule. Allez les gars, deuxième étoile du Paris Saint-Germain, on va en parler évidemment. Jusqu'à midi, on sera dans les rues de Paris où les célébrations sont attendues. Près de 100 000 personnes au Champ de Mars. Aux alentours de 14h, évidemment, journée spéciale avec des invités, avec des anciennes stars du Paris Saint-Germain au micro de votre antenne préférée. On va en reparler dans un instant. On va parler de Luis Enrique. On va parler de la dynastie possible du Paris Saint-Germain, ce qui rentre dans le club très fermé des géants européens. Mais d'abord, dans un instant, le zapping. Tiens, on va parler rugby, le top 14 et tennis. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, le PSG champion d'Europe pour la deuxième année consécutive sur le ring dans un instant. Luis Enrique est-il déjà l'entraîneur de la décennie? On vous attend évidemment pour voter sur X, notamment sur le compte des grandes gueules du sport. Allez tout de suite le zapping.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Ah, Roland Garros, je m'en fous pas. La belle aventure s'arrête au troisième tour pour Moïse Kouamé, Christophe.
Je ne m'en fous pas du tout.
Cédric,
je m'en fous pas.
Fred,
je ne m'en fous pas.
Pascal,
je m'en fous pas.
C'est donc fini pour le jeune français de 17 ans, battu en 3h40 et 4-7 par le Chilien Alejandro Tabilo. 36e mondial, le francilien a réussi à sauver 4 balles de match, mais il a fini par céder dans le tie-break de la 4e manche. On l'écoute.
Un bilan assez positif, on va dire, sur moi-même, plan de vue niveau tennistique. Voilà, il y a un bilan plus que positif, mais voilà, il y a aussi un bilan où il y a des choses à améliorer, sinon j'aurais gagné le tournoi. Et je ne l'ai pas fait, donc c'est forcément qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné à certains moments. Voilà, avec l'équipe, on va essayer de catégoriser ces moments et les bosser plus tard en train.
Vous écoutez un joueur de 17 ans sur son analyse après le match. Il a dit d'ailleurs que la victoire du Paris Saint-Germain, on va dire, a arrangé 50% de sa tristesse. Christophe Moïse Kouamé, bon, il est rentré en
français. C'est mon coup de cœur de la semaine. Ce garçon est génial. Il a une personnalité, il a une fraîcheur, il a un niveau de jeu. Il a un sourire, il sait jouer avec le public. Hier, j'ai bien cru qu'il allait l'accrocher, qu'il allait le pousser dans une cinquième manche.
4 balles de match sauvées.
Le problème, c'est encore une fois, il a joué 48 heures plus tôt et on l'a fait jouer comme ça en milieu d'après-midi. On aurait pu le faire jouer
Est-ce que tu penses que 3 heures de repos
en plus? Mais bon, tu as senti un moment qu'il était dans le dur quand même, physiquement.
T'as une sieste en plus quand même, dis-moi. Non, c'est pas anodin. Mais tu joues, il y a de la fraîcheur, tu te reposes.
Non mais c'est vrai que t'as raison, Christophe, c'est un jeune joueur qui a pas l'habitude de jouer des matchs en 5-7.
Ben ouais, en plus, tu sais, c'était son deuxième match.
Il y a un showman.
Il est génial. J'ai hâte de le voir à nouveau. Ouais,
Il y a de la fraîcheur. Ah, et ça, c'est agréable.
C'est vrai, t'as envie de le suivre.
Ouais, puis son analyse, elle est propre, il est lucide. À voir, c'est agréable.
Il parle bien, il joue bien, il a de l'énergie, il est showman, il a tout pour plaire.
Il a tout.
On sent le garçon célébré. Ouais, un garçon très cérébré, très. On sent, c'est. Nouvelle ça fait du bien, 17 ans.
Nouvelle génération de sportifs où les mecs parlent bien, les mecs sont directs.
C'est dingue, mais on en a parlé en antenne. Wemby d'un côté, là, ce Kwame. Arthur Fils, hein, pareil, c'est un super joueur.
Sexas.
Malheureusement, il est souvent blessé. Sexas, n'en parlons pas.
Marchand.
Le Marchand, Louis Bielbiary en rugby, il est incroyable de maturité, incroyable de talent. Il y a une génération. Génération spontanée. Le sportif français, c'est.
Bien, ils sont capables d'analyser leur performance.
Désiré Doué.
Ouais. Et ils sont lucides parce qu'ils savent que tout peut s'arrêter. Mmh. Donc le moment présent, ils le vivent, ils analysent bien et ils se projettent. C'est ça qui est bien dans cette nouvelle génération.
En fait, ce qui est terrible, c'est que moi, ça me fait limite complexer par rapport à ce que j'étais à 17 ans. J'imagine que tout le monde. Hein. Moi, à
17
ans,
c'est
je préparais mon goûter.
C'est les bonnes choses normales parce qu'on a eu des résultats, on a pris des exemples, on a eu des exemples. Ça a permis à ces jeunes justement de se développer. Et je trouve que ce qui est le plus impressionnant, c'est évidemment leur niveau sportif, mais intellectuellement ils sont câblés, les mecs, en fait.
Non mais pensez, je sais pas vous, les parents qui nous écoutez là, vous voyez votre fils de 17 ans en train de préparer le bac, là vous dites, vous vous rendez compte, au même âge le mec il joue Roland Garros. Ouais.
Quand tu joues pas avec tes enfants qui ont le même âge, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai raté.
on embrasse tes enfants,
nos enfants.
Et bonne fête à toutes les mamans d'ailleurs, aujourd'hui c'est la fête des mères. Voilà, il reste plus qu'une seule représentante française, c'est Diane Paris, on va en parler tout à l'heure à Roland Garros. Allez, on zappe, les amis. Je m'en fous pas. L'avant-dernière journée de top 14 en rugby livre les derniers billets pour la phase finale. Et c'est chaud, Cédric et Mans.
Je m'en fous pas.
Cédric, Christophe.
Non, je m'en fous pas non plus.
Pascal.
Non, je m'en fous pas.
Fred.
Je réfléchis, mais je m'en fous.
Ah, bah oui. Le contraire, je me serais dit, le mec, quand il dort pas, en fait, il commence à aimer le rugby. Qu'est-ce qui lui arrive? Une semaine après sa finale victorieuse de Challenge européen. Donc, Montpellier a su conserver sa dynamique pour dominer Pau 26-18 dans un choc entre le deuxième et le troisième. Les Héroletais ont écarté un rival direct pour la deuxième place sur lequel ils vont garder une main avant la dernière journée. On écoute Joanne Codulo, le manager.
Oui, non, je suis content. J'ai vraiment peur de ce match. Je savais que dans l'enchaînement de match, après, le management, c'est de la manipulation aussi. Enchaîner ce qu'on a fait, c'est énorme. Je savais que ça allait être compliqué. Quand à la mi-temps, on n'était pas loin au score. Avec le banc qu'ils avaient et la fraîcheur, je pensais que ça allait être compliqué. Mais on a encore montré des valeurs exceptionnelles pour moi. Donc, on leur a fait croire des choses et ils sont arrivés. Donc, félicitations aux joueurs ce soir, parce que enchaîner deux performances comme ça, et c'est notre 11e match d'affilée. Pendant que certains se reposent, l'enchaînement de match, ça fait du bien, mais on va compter les morts et puis on va repartir lundi et on va enterrer les autres et puis voilà, on va enchaîner.
Excellent. Ouais. Non, mais l'analyse de Cudulo cette année, il maîtrise totalement son sujet, mais même quand il dit la manipulation, je crois que les planètes.
Le management, c'est de la manipulation.
C'est juste, bien sûr. Tu amènes des joueurs dans ton histoire, dans ton univers, pour leur faire comprendre qu'ils sont capables de renverser les montagnes, et il le fait très bien. Montpellier est candidat sérieux, compliqué à jouer.
T'es le deuxième à me le dire, après Denis.
Attention à Montpellier. Ouais. Puis je crois que ça ferait du bien. Alors, bien sûr, je suis pas pro Montpellierin, mais voilà, ça ferait du bien qu'il y ait un entraîneur qui est passé par la formation.
Ça ferait du bien que Toulouse soit pas champion de France.
Non, parce que là, moi, je vais me faire attraper après.
Non, tu veux dire pour la personnalité, le parcours de
exactement. On lui fait confiance, on lui donne les clés du camion. C'est un entraîneur qui vient du Serail Montpellierin. Mmh. Ça serait bien. Puis ça récompenserait tous ces entraîneurs qui se forment et qui prennent le temps de faire les choses correctement.
Pourquoi le management, c'est de la manipulation, Pascal?
Mais au sens premier du terme, ça voudrait dire qu'on veut en tirer un profit, en fait, de manipuler. Mais c'est pas pour les voler, les joueurs que l'on coach.
C'est simplement pour les stimuler.
Mmh. Et donc, tu te dois de temps à autre de manipuler. Ouais. Dire à deux joueurs, lors de deux entretiens, que ce sont tous les deux les meilleurs joueurs de ton équipe. Normalement, t'en as qu'un de meilleurs joueurs dans ton équipe. Mais si tu le dis deux fois à deux joueurs, c'est pas grave, en fait.
Faut pas qu'ils parlent entre eux, quoi.
Mais oui, donc,
le problème, il est là.
Qu'à partir du moment où les joueurs ne parlent pas entre eux.
Le problème, c'est quand ils se débriefent les entretiens. Là, il y a un problème.
Montpellier, qui est à égalité avec le Stade français, ira à La Rochelle pour la dernière journée. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Le Stade français ira à La Rochelle et là, Montpellier ira au Loup pour la dernière journée. Donc Montpellier, Stade français, égalité pour la dernière journée.
Aller à La Rochelle, ça ne va pas être facile non plus, vu les prestations de La Rochelle. 5 victoires d'affilée, ils sont relancés et ils sont aux portes de la qualification.
Et cet après-midi, Toulon, UBB à 15h30 à Mayol. Les Bordelais retrouvent le top 14 6 jours après leur victoire.
victoire en Champions Cup. Ils sont ce matin 6e au bord du précipice, donc après la victoire de La Rochelle pour la qualification, avant de recevoir la semaine prochaine Clermont, qui reçoit le Racing 92 ce soir à 21h05. Ce sera sur RMC. Tiens, je sais que tu voulais parler de ça. La longue semaine des Bordelais après avoir fêté le titre en Champions Cup et revenir sur le terrain. Évidemment, ils seront pas tous là.
Hein, mais à Mayol.
La finale. Yannick Bru, le manager bordelais.
Je leur ai dit, qu'est-ce qu'on fait de la fin de saison? Est-ce qu'on balance la fin de saison? On part en vacances maintenant? Ou est-ce qu'on s'accroche pour vivre des moments comme ça dans quelques semaines? Donc tous les gars ont dit non, on balance pas la fin de saison. Donc j'ai dit ok, donc samedi, folie, je leur ai dit. Dimanche, folie. Lundi, folie encore dans un endroit que vous connaissez bien, face à la dune du Pilat. Mardi, folie. Là, je croyais qu'ils allaient me dire récupération, ils ont continué à dire folie. Et mercredi, folie. Et jeudi, folie.
C'est
les folies. Non, là, ça va pas le faire. Hein, bon.
C'est tellement rugby, ça. Moi, j'adore. Heureusement qu'il y a de temps en temps que des entraîneurs comme ça et que les joueurs pense à autre chose. Ils ont fait un exploit incroyable la semaine dernière. Ils ont fait le back-to-back, comme le Paris Saint-Germain. Derrière, à un moment, il faut aussi pouvoir
décompresser. Je précise, il n'y aura pas Jalibert sur la feuille de match.
Il faut tourner un peu.
Sur le banc, pas de Bielbiaré sur la feuille de match.
Et Big
également.
Ben, est-ce qu'il sera là avec son vélo et son maillot de la semaine dernière?
Il est parti depuis jeudi à vélo.
Big Ben a fait
non,
ça.
Non, mais c'est bien parce qu'il les responsabilise. Il leur dit, voilà, ça vous appartient, c'est votre histoire. C'est ça du management aussi. On disait tout à l'heure manipulation, là. Mais c'est simplement de leur dire, on avait le double. Maintenant, il faut savoir ce que vous voulez. Et là, il les responsabilise.
Non, mais attention, l'UBB en danger quand même, hein, parce que
il faudrait aller chercher un point de bonus cet après-midi à Toulon et la semaine prochaine l'emporter.
Contre Clermont.
C'est dans leur corps, hein.
Oui.
Attention, hein. La semaine prochaine, ils seront tous là, plein badin. Hein. Et une grosse victoire la semaine prochaine, une victoire bonifiée, leur permettrait de terminer dans le top 6.
Non, parce que moi, une défaite aujourd'hui et une victoire de Clermont ce soir contre le Racing. Et là, l'UBB va jouer le dernier match contre les Auvergnats, avec
Marche ou crève.
Ouais. Voilà, exactement.
Ouais. S'ils montrent le même niveau de jeu que la semaine dernière, je donne pas cher des chances et de la peau des Auvergnats.
Tiens, les gars, je voulais juste terminer par une dernière information. Je m'en fous pas. Vous savez que Roland Garros a vécu hier le match le plus long de l'histoire du tournoi depuis l'instauration du Super Tiebreak. Vous saviez ou pas? Parce que je sais que vous avez tous regardé.
Le Berrettini?
Exactement. Ouais. Non, pas du tout. C'était Cerundolo, l'Argentin, à Juan Manuel, face à l'Espagnol Martín Landaluz. Écoutez bien, parce que j'imagine que vous avez tous regardé le Paris Saint-Germain ou Moïse Kouamé. C'est allé au bout du super tie-break, donc dans le cinquième set. 5h58 de jeu. C'est le troisième match le plus long de l'histoire de Roland Garros, mais le plus long depuis l'instauration du super tie-break en 2022. Et c'était le dernier jour de canicule, hier à Roland Garros. Non, mais 5h58, je sais pas.
Mais 5h58 avec cette canicule, c'est juste affreux. C'est juste intenable c'est pas possible, il faut trouver des solutions. Vraiment, c'est beaucoup trop long.
La stat que j'aimerais qu'on nous donne, c'est le temps effectif de jeu. Pour vraiment pouvoir se donner une véritable idée.
Le temps de jeu au tennis, c'est d'une intensité dingue.
Ah, non, mais ça, j'en conviens.
Mais quand les mecs, ils font des rallyes autour, le cœur monte à une vitesse. C'est un truc de fou.
6-4, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6. Insupportable, que des tie-breaks. Juan Manuel Cerundolo, c'est celui qui avait réussi à renverser Sinner, souvenez-vous.
C'est lui qui gagne.
Et c'est lui qui gagne au final. Juan Manuel.
Le match Berrettini Comezana, c'était quasiment pareil.
Les amis, il y a eu que des matchs de dingue qui ont terminé à 1h du matin hier. Sciences et Suafo également. Donc voilà, on va parler de Roland Garros tout à l'heure à 11h30.
Il n'y a plus un nom qu'on connaît en revanche. C'est terminé. Là, il y a un mec que je connais en revanche.
C'est bien, nos auditeurs vont dire qu'on a des spécialistes dans les grandes gueules du sport. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.